Comprendre comment l'intelligence essaie de découvrir les diverses dimensions de l'être, découvre par l'induction l'être en acte et l'être en puissance. J'étais assez rapidement parce que les inductions, on va toujours vite. Parce que ça monte. Alors il faut aller vite. Parce que si on va pas vite, on risque de retourner en arrière. Vous savez, c'est comme un automobile quand ça glisse. Alors on risque de retourner en arrière. Donc il faut monter rapidement. Et l'induction, c'est cette montée verticale de l'intelligence qui, interrogeant, veut connaître ce qui est dans une nouvelle lumière du TST d'abord, pour découvrir le noyau fondamental de ce qui est du côté de la source de toute détermination, ou pour découvrir au contraire, et alors c'est la seconde grande interrogation, qu'est-ce qu'il y a d'ultime dans l'être? Qu'est-ce qu'il y a de qui achève l'être? C'est cette interrogation dernière où l'intelligence veut saisir ce qu'il y a d'ultime. Alors, en vue de quoi, si vous voulez, mais j'aime presque mieux dire ce qu'il y a d'ultime, pour comprendre justement que c'est l'intelligence qui, à ce moment-là, veut dépasser le point de vue de toutes les déterminations et saisir ce que les déterminations ne nous disent pas. Ce que je vous avais essayé de voir, comment, dans le mouvement, il y a quelque chose d'irréductible à toutes les catégories. Je ne peux pas expliquer le mouvement par les catégories. Je ne peux pas expliquer le jugement d'existence par les catégories. Je ne peux pas expliquer ce que représente la plénitude de l'homme qui atteint son bonheur par le point de vue des catégories. Autrement dit, je suis en présence d'un nouveau problème, et c'est ça qu'il faut essayer de saisir. Un nouveau problème qui est justement le fait que toutes les réalités que j'expérimente, toutes impliquent deux états. Un état d'imperfection, un état de perfection. Et c'est la même réalité qui implique ces deux états. Alors c'est à partir de là que nous pouvons essayer de comprendre cette induction. C'est toujours difficile, hein, une induction, parce que c'est l'effort de l'intelligence de monter à la source. Je vous ai déjà dit la définition que Peggy donne de la philosophie. C'est pas très aristotélicien, mais c'est intelligent. Alors c'est quand même quelque chose de beau. Peggy dit, tout le monde descend le fleuve. C'est facile de descendre le fleuve, même les cadavres descendent le fleuve. À ce moment-là, on fait comme tout le monde. C'est difficile de remonter à la source. Quand on veut remonter à la source, il faut accepter quelquefois d'être seul. Et ça exige un effort constant pour remonter à la source. Je crois que c'est ça l'induction. C'est remonter à la source. Alors Peggy le dit avec son style poétique, Aristote le dit dans un style moins poétique, mais c'est la même chose. Et au fond, Platon, à sa manière, sans donner le point de vue strict de l'induction, dit quand même quelque chose d'analogue. Quand il dit que l'intelligence, quand elle interroge, elle est comme le chien de chasse qui veut découvrir le gibier. Alors, il faut savoir qu'il y a du gibier, évidemment. Alors ça, c'est de l'ordre du flair. Je ne dis pas que c'est de l'ordre de l'intuition, mais c'est de l'ordre de comprendre qu'il y a un problème. Et c'est pour ça que j'avais exprès, parce que je crois que c'est très important, montrer que le problème de l'ousia, le problème de cette source de toutes les déterminations n'explique pas la complication de la réalité que j'expérimente. Il y a quelque chose d'autre qui, par le fait même, ne pouvant pas être saisi par le point de vue de ce principe de toutes les déterminations, de cette source d'autonomie. Il faut donc découvrir qu'est-ce qui va expliquer que la réalité que je constate implique ces divers états. Donc avant de revenir un peu sur cette induction, puisqu'on me pose une question, j'y réponds. Je crois que du reste que c'est autour de tout cela. Pourriez-vous montrer comment, dans l'induction de l'acte, les aspects synthétiques et analogiques, les deux expressions que j'ai reprises, qui sont dans le livre Theta d'Aristote, et qui, je crois, sont très significatives, s'impliquent mutuellement, tout en se distinguant, car, par exemple, si on ne regardait que l'aspect synthétique, ne ferait-on pas de l'acte principe la synthèse de tous les états d'être en acte? Donc, au fond, c'est revenir, si vous voulez, sur le caractère tout à fait particulier de cette induction. Et je crois qu'on ne perd pas son temps à essayer de comprendre cette induction, parce que c'est vraiment le moment le plus difficile de la métaphysique. Et c'est en même temps la chose la plus importante, de comprendre que, de fait, il y a là un problème radical, saisir l'être en acte comme fin. Le saisir comme télos, comme ce qui est ultime. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Vous voyez, quand il s'agit de l'ousia, c'est ce en deçà de quoi je ne peux pas aller. C'est le fondement. C'est un principe, mais c'est le fondement. C'est la source. C'est pas la même chose. Alors évidemment, l'acte est aussi source. C'est sûr, mais c'est pas de la même manière que je l'atteins. Et c'est ça la difficulté. C'est que nous avons au fond une... Quand on a découvert quelque chose et qu'on a eu de la peine à le découvrir, on retombe toujours dans la même perspective. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence, elle a la capacité de regarder la même réalité sous des aspects différents. On fait ça spontanément dans l'ordre artistique. À part quelques personnes qui n'ont pas beaucoup le sens artistique, alors elles regardent toujours dans le même sens. Mais quand on est devant quelque chose qui nous intéresse au point de vue artistique, on aime de le regarder sous des aspects différents. Alors ça se fait automatiquement. On dit, oh, regardez ce point de vue, c'est unique. Regardez cette statue sous cet angle-là. Regardez ce tableau sous cette lumière, et ainsi de suite. On sait très bien que notre intelligence n'est pas intuitive. C'est pour ça qu'il faut différents aspects. Si j'étais intuitif, si je saisissais tout d'un seul coup, ben, il n'y aurait pas besoin de ça. Mais la réalité est opaque. Elle a une opacité. Alors je suis obligé de me mettre dans des points de vue différents. Et c'est pour ça qu'il y a un premier point de vue de cette interrogation du TST. Qu'est-ce que c'est que ce qui est du point de vue de l'être? Et puis je vais dans la même ligne, mais en interrogeant différemment pour saisir ce qu'il y a d'ultime. Alors, je reprends, si vous voulez, je ne veux pas la reprendre entièrement, hein, mais je reprends simplement pour répondre à la question ici. Je prends ce point de vue très simple, hein, mais je peux prendre cette induction de diverses manières, hein, exprès. La dernière fois, je vous l'ai prise d'une autre manière que ce que j'ai donné dans le livre et d'une autre manière qu'Aristote, exprès. Parce qu'il faut avoir beaucoup de souplesse. C'est propre de la philosophie. Si on reste tout le temps dans les mêmes lignes, on répète. Et alors on ne saisit rien. Il faut donc repenser chaque fois. Et alors ça nous aide de prendre exprès des points de vue un tout petit peu différents pour repenser chaque fois. Mais repensez-le toujours par rapport à l'homme. C'est-à-dire par rapport à vous-même. Puisque la métaphysique est tournée vers le point de vue de l'homme. Et alors, vous essayez de saisir ces différents états. Je reprends la chose classique, celui qui est éveillé et celui qui dort. Je suis au niveau de la vie. Celui qui est éveillé et celui qui dort. C'est la même personne. C'est la même personne. Quiditativement, c'est la même personne. Au point de vue de l'ousia, c'est la même personne. Au point de vue de la personne humaine, c'est la même. Je ne change pas de personne substantiellement quand je m'éveille. C'est très dommage, mais c'est comme ça. Je suis la même personne quand je dors et quand je suis éveillé. C'est assez extraordinaire, du reste. Je suis la même personne. Vous voyez, au point de vue psychologique, c'est totalement différent. Mais métaphysiquement, c'est la même personne. C'est la même personne qui dort et qui se réveille tous les matins. Et comme je vous le disais, qui se réveille quelquefois plusieurs fois par jour. Parce qu'il peut y avoir des moments où l'on somnole, on retombe. Dans un cours de métaphysique, on retombe, c'est difficile, alors on retombe, la chute. Alors on s'éveille une seconde fois. Le passage de ce qui est imparfait à ce qui est parfait, du moins pour nous. Parce qu'on pourrait discuter. Vous voyez, j'ai fait exprès, hein, vous voyez bien. Le parfait, c'est celui-ci, j'espère, hein, et l'imparfait, c'est celui-là. Pour que vous compreniez qu'on peut prendre les deux. Pour certains, ils sont éveillés pour dormir. Et d'autres dorment pour être éveillés. Alors, j'espère que vous êtes de la catégorie de ceux qui considèrent qu'être éveillé, c'est un état de perfection, et de dormir, c'est un état d'imperfection. Mais songez à Freud, vous verrez que ce n'est pas tout à fait la même chose. Je dis ça, c'est parce que c'est toujours intéressant de voir les parallélismes, le conscient et l'inconscient, tu vois, de voir l'état de plaisir et l'état de devoir. Ce sont des états, c'est très curieux que Freud lui-même est obligé de constater ça. Donc on est obligé de constater que dans la même personne humaine, il y a des états différents. Constatation de l'état de perfection, de l'état d'imperfection. Celui qui est, je prends tout de suite l'extrême, hein, celui qui est capable, celui qui contemple, et celui qui est capable de contempler. Contemplation philosophique, hein, la théoria. Donc celui qui contemple et celui qui est capable de contempler. Là encore, deux états différents. C'est la même personne. Capable de contempler, hein, si je prends profondément, je dis celui qui possède un habitus. Il possède un habitus, il possède un exis, mais il n'est pas encore en exercice. Celui qui réalise, qui édifie, qui construit une maison. Et celui qui est capable de la construire. Et ainsi de suite. Vous pouvez multiplier. Ne multipliez pas trop. Parce que si vous multipliez trop, vous vous étendez. Et alors au bout d'un certain temps, vous perdez la concentration. De sorte que je crois qu'il ne faut pas s'étendre de trop. Vous voyez ? Et c'est dans ce sens-là que cette induction peut prendre des modalités différentes. Et ce n'est pas mauvais de la faire sur des modalités différentes. Parce qu'elle est difficile. Elle est très difficile à faire. Elle repose sur l'intelligence qui veut voir qu'est-ce qu'il y a de commun et qu'est-ce qu'il y a de dépassement. Autrement dit, que correspond par rapport à la même personne qui est dans un état d'imperfection et qui est dans un état de perfection, qu'est-ce que ça correspond, ça ? Celui qui est dans un état d'imperfection et dans un état de perfection. Il y a un ordre entre les deux. L'état d'imperfection est ordonné à l'état de perfection. Il y a un ordre entre ces deux états. Il y a un vers, un pros. C'est important de voir ça. Et en même temps, il y a dedans. Parce que l'état d'éveiller, il est dans l'homme. Et l'état de dormir aussi. Les deux états sont immanents à l'homme. Et ces deux états, cependant, vont changer complètement la perspective de celui qui exerce cette capacité d'être éveillé et cette capacité de dormir. Bon, alors, je reprends. Pourriez-vous montrer comment, dans l'induction de l'acte, les aspects synthétiques et analogiques s'impliquent ? Qui dit analogie, dit nécessairement quelque chose qui est tout à fait autre. Allô, allô. Il ne faut jamais l'oublier. Hein. L'analogie, pour nous, la plupart du temps, c'est une analogie artistique qu'on prend. Et l'analogie artistique, c'est le point de vue de la comparaison et de la similitude. C'est ça qu'on comprend en premier lieu pour nous. L'analogie, c'est la comparaison, et la comparaison implique la similitude. Et c'est à partir de là qu'on brouille tout et qu'on ne comprend plus rien du tout. Il faut comprendre que l'analogie au niveau métaphysique, c'est au contraire la diversité qui est première et le quelque chose de commun qui vient en second. Je ne dis pas la similitude, mais quelque chose de commun. Ça va beaucoup plus loin. Il faut bien comprendre, ce n'est pas la comparaison l'analogie. L'analogie, c'est quelque chose de plus profond. Ça touche la question de l'ordre que l'intelligence saisit. L'intelligence est capable de saisir des états différents, imparfaits et parfaits. Et dans ces états différents, elle saisit qu'il y a, dans cette diversité, il y a quelque chose de commun. Il y a quelque chose de commun entre celui qui dort et celui qui est éveillé, comme entre celui qui est capable de contempler et celui qui contemple. Il y a quelque chose qui est capable, quelque chose de semblable, d'analogue entre celui qui construit et celui qui peut construire. On est en face des états divers. Donc l'analogie implique toujours diversité et unité. C'est le propre de l'analogie. Et donc dans l'analogie, il y a toujours un ordre qu'on doit saisir. C'est ça le propre de l'analogie. Bon, si je prends uniquement le problème de l'analogie, je prends simplement un état comparé à un autre. Tout simplement. Deux états différents. J'ai donc une analogie entre ces différents états. Si je dis synthétique, je veux montrer que mon intelligence, au-delà de la diversité et dans l'unité analogique, aime de regarder exprès les choses les plus diverses. Parce que je peux très bien choisir des exemples qui soient plus proches. Alors, c'est pour ça que je dis synthétique, pour montrer que cette analogie étant, que cette induction étant particulièrement difficile, je veux saisir ce qu'il y a de plus extrême. Je prends des états différents extrêmes pour en faire la synthèse. C'est ce qui fait comprendre que lorsqu'il s'agit d'une analogie, simplement de l'induction de l'ousia, je ne suis pas en phase d'une induction synthétique. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas obligé, étant donné que mon intelligence saisit un principe plus immanent, je ne suis pas obligé d'aller jusqu'au bout de cette saisie du principe. Il s'agit de saisir ici quelque chose d'ultime. C'est pour ça que je vous avais dit, essayons de bien comprendre avant ce qu'est l'interrogation. Parce que c'est l'interrogation qui me prépare à saisir. Si je n'interroge pas, je ne peux pas induire. Exactement comme celui qui, au point de vue scientifique, n'a pas d'hypothèse, il ne découvrira jamais rien. Il faut avoir une hypothèse pour découvrir, c'est ça qui anime. Et qui me met mon intelligence dans un état d'acuité. Or, le propre de l'induction, c'est justement de mettre mon intelligence dans un état d'acuité pour que l'intelligence soit capable de dépasser ce qui est immédiatement visible et descriptible pour saisir la source cachée. C'est toujours une source cachée que l'intelligence cherche. Lorsqu'il s'agit de décrire, ben oui, tout simplement, je décris. Mais quand il s'agit d'analyser, c'est différent. Or, l'analyse au point de vue philosophique se fait par l'induction. Il n'y a pas d'autre analyse que l'induction. Alors, cette analyse, elle, creuse au-delà de la description pour saisir la cause et le principe. Oui, donc, c'est l'exigence d'une intelligence qui veut aller plus loin. Quand je décris, c'est très important de décrire, mais je ne vais pas plus loin. Je suis dans l'ordre de l'extension. Et je décris les choses successivement. Quand je veux aller plus loin que la description, je veux justement saisir ce qui est, ce qui va permettre de me donner l'intelligence de la diversité et de l'unité dans cette diversité. C'est toujours ces deux aspects qui me permettent de passer au-delà de la description pour saisir la source et le principe, c'est-à-dire saisir la cause. Ce n'est pas commode du tout, parce que nous avons, nous, dans notre intelligence, nous avons un schème imaginatif de la cause. Ça, je crois, si on pouvait détecter ça, on verrait que la plupart du temps, on a un schème imaginatif de la cause. Depuis Kant, même avant Kant, on pourrait dire depuis Occam. Ça fait depuis le XIVe siècle. Depuis le XIVe siècle, il y a un schème imaginatif de la cause. On reste uniquement sur un ordre d'antériorité et de postériorité. On reste uniquement sur une condition sine qua non, sans voir du tout ce que représente vraiment l'analyse de la réalité. On n'analyse plus. Occam n'analyse plus. Et Occam a eu cette influence extraordinairement grande, ça on ne peut pas lier, sur toute la scolastique et sur Descartes. Et alors, étant donné que, de fait, la plupart du temps, on ne remonte pas plus loin, on reste devant ce schème de la causalité. Alors, si on reste devant ce schème de la causalité, on n'entre pas dans l'induction. C'est une des choses qui me frappe le plus, ça. C'est que l'induction est perdue. Elle est perdue, et je crois que c'est vraiment à partir de Occam qu'elle est complètement perdue. On a répété. Et les erreurs se répètent beaucoup plus vite que la vérité. Parce que la vérité, il faut la redécouvrir, on ne peut pas la répéter. C'est ça qui est terrible. Les erreurs, on peut les répéter parce qu'elles sont descriptives. Les erreurs ne saisissent pas la source. Elles ne saisissent pas la source cachée. L'erreur est toujours descriptive. Ça explique cette espèce de lien qui existe entre l'art et le mal. C'est très curieux. Parce qu'il y a l'aspect descriptif du mal, l'aspect de la manifestation dans le mal, alors que la vérité est une chose qui se saisit de l'intérieur et qui doit aller beaucoup plus loin, et donc qui présuppose l'analyse. Alors, je crois que c'est ici qu'il faut comprendre comment cette induction, toute induction est analogique. Il n'y a pas d'induction purement descriptive, ça n'existe pas. Toute induction est analogique. Et cette induction est analogique et synthétique parce qu'elle désire aller le plus loin possible. C'est uniquement cela. Oui, c'est de l'ordre de la disposition, le point de vue synthétique. Si j'avais un esprit suffisamment pénétrant, je dis bien, si j'avais un esprit suffisamment pénétrant, donc si parmi vous, il y a un esprit suffisamment pénétrant, il suffit tout simplement de regarder ces deux états. Et tous les matins, en vous éveillant, vous pouvez faire l'induction de l'acte. Si vous avez un esprit suffisamment pénétrant. Et que immédiatement, vous voulez réfléchir sur ce fait, qu'est-ce que c'est que m'éveiller? Mais vraiment, hein, parce que pour faire l'induction de l'acte, il faut être très éveillé. C'est vraiment éveillé. Et éveillé au point de vue de l'intelligence. Pas seulement éveillé du côté du cœur. Très bien d'être réveillé du côté du cœur, mais ce n'est pas suffisant pour la métaphysique. Il faut aller plus loin. Il faut être éveillé du côté de l'intelligence. Et alors, si l'intelligence est parfaitement éveillée, elle saisit immédiatement cet ordre qui existe entre les deux. Et si elle le saisit radicalement, elle le saisit au-delà du point de vue vital, parce que ça, c'est le point de vue vital au niveau biologique, et elle saisit que cette manifestation vitale au niveau biologique s'enracine dans l'être. Vous voyez tout ce qu'il faut dépasser. Parce qu'il est évident que ces deux états sont d'abord au niveau de la vie et de la vie biologique. Ici, c'est au niveau de l'esprit. Ici, c'est au niveau encore de l'esprit et du facere. Alors, ce qu'il faut, c'est comprendre que ces deux états, je ne peux pas m'arrêter uniquement au niveau de la vie, je dois dépasser et saisir ce qui est du point de vue de l'être. Mais cet exemple suffit. Si je suis l'intelligence suffisamment pénétrante, parce qu'il y a là quelque chose que je n'explique pas uniquement par le point de vue de la personne et de l'ousia. Il y a quelque chose qui va plus loin. Et qu'il faut saisir justement dans son caractère qui est particulier, quelque chose d'ultime. Être parfaitement éveillé, c'est ce qu'il y a d'ultime pour vous. Vous ne pouvez pas mettre un sur-éveillement, c'est être parfaitement éveillé. Bon, alors j'espère que vous voyez pourquoi on dit synthétique et analogique. Car, par exemple, si on ne regarde que l'aspect synthétique, ne fait-on pas de l'acte-principe la synthèse de tous les états? Si on fait uniquement synthétique, ça ne va pas, puisque de fait, on oublie ce caractère analogique. Alors, vous faites une induction type baconienne. Vous analysez le plus de cas possible, et vous êtes dans l'ordre de l'extension. Et vous ne cherchez pas à saisir l'aspect qualitatif de l'induction. Alors, je continue. C'est toujours la question à poser. Cette induction est synthétique, analogique, et porte sur la cause finale. Non, elle ne porte pas sur la cause finale. Elle interroge sur la cause finale. Et elle découvre la fin. Alors, je continue, porte sur la cause finale, prétendue métaphorique par certains, dont Scott. Parce que c'est ça, c'est à partir de dont Scott qu'on a dit que la cause finale était métaphorique. Et certains grands thomistes, Jean de Saint-Thomas, rapportent la même chose en disant que cette causalité est métaphorique. Alors c'est intéressant de voir qu'à partir de dont Scott, le point de vue de la cause finale a été considéré comme métaphorique. Il faut essayer de comprendre, du reste, pourquoi. Je reviendrai tout à l'heure. L'exercice de l'intelligence occupe ici, plus que tout ailleurs, un rôle prépondérant qui nous ferait vite confondre la signification profonde de l'être à ma manière de saisir l'être. Pouvez-vous opérer la distinction qui nous occupe ici entre conditionnement et détermination ? C'est très vrai ce qu'on dit là. C'est que c'est toute la difficulté de cette induction. Je pars de deux états. Avicenne est resté à ce niveau-là. C'est pourtant pas un imbécile. Le néoplatonisme est resté à ce niveau-là, au niveau du conditionnement. Et en restant au niveau du conditionnement, je saisis des états différents, dont je vois l'analogie, la diversité et l'unité, mais je ne saisis pas un principe. Je saisis des états différents que je peux décrire. Le conditionnement, c'est ce qui se peut se décrire. Le principe, c'est ce qui est au-delà de la description. Et l'intelligence seule saisit le principe. Je ne peux plus décrire le principe, c'est ça qui est terrible. On va faire un petit dessin, voilà ce que c'est que l'acte. Alors vous comprendriez tout de suite. Tandis que le conditionnement, celui qui dort est éveillé, oh, ça c'est facile, hein. Il dort, il est allongé, et puis il est éveillé, il est vertical. Alors vous avez l'horizontal et le vertical. Alors à ce moment-là, vous comprenez tout de suite les deux spiritualités, la spiritualité de celui qui dort, horizontale, la spiritualité de celui qui est éveillé, verticale. Vous pouvez le décrire. Tout conditionnement peut se décrire. Tandis qu'au contraire, la saisie du principe est au-delà. Alors, c'est ça qui est le propre de l'intelligence. Le propre de l'intelligence, c'est de vouloir aller toujours plus loin. Tant qu'elle n'a pas saisi un principe, l'intelligence ne se repose pas. Comme intelligence. Évidemment, vous pouvez vous reposer comme homme avant. C'est ça le tragique. C'est que souvent, l'homme éteint l'intelligence. Il dit « Oh, c'est fatigant ». Donc, c'est pas la peine. Alors, à ce moment-là, c'est l'homme qui éteint l'intelligence. C'est l'homme qui arrête l'intelligence. C'est l'homme qui ne veut pas aller jusqu'au bout, parce que c'est fatigant. Pour l'intelligence, c'est jamais fatigant. Parce que l'intelligence a un appétit spirituel qui veut aller le plus loin possible. Et c'est le propre de la démarche intellectuelle, ça. C'est que l'intelligence veut aller le plus loin possible. Alors, seule l'intelligence saisit le principe. Seule l'intelligence saisit le principe. Écoutez, je vous en supplie, si vous assistez au cours, ne regardez pas trop vos voisins. Non, c'est vous trois là-bas. J'aime pas beaucoup, vous savez, les spectateurs dans le cours. Ordinairement, les spectateurs dans le cours, je les mets à la porte. J'aime pas que les gens viennent au cours de métaphysique comme spectateurs. Je regrette. Je vous vois pas, alors je peux pas vous reconnaître, je sais pas c'est qui. Ça n'a pas d'importance, comme je suis myope. Mais je vois très très bien que vous commencez au bout d'un certain temps à suivre et puis à regarder celle qui est à côté de vous. J'aime pas beaucoup ce genre-là. Qu'est-ce que c'est que l'acte? Si vous, que vous voyez bien, je vous parle. Vous voyez, c'est extraordinaire. Écoutez, est-ce que vous venez au cours de métaphysique pour faire de la métaphysique ou pas? Je vous verrai tout à l'heure. Bon, je continue. Mais j'aime pas ça. Vous savez, c'est difficile de faire de la métaphysique. Faut pas croire que la métaphysique, ça se fait en dilettante. J'ai horreur d'une philosophie dilettante. Parce que la métaphysique, c'est l'intelligence qui cherche et qui veut aller jusqu'au bout. Alors, si l'intelligence est tendue pour aller jusqu'au bout, dans l'ordre de l'induction, eh bien, c'est difficile. Alors, quand on est... C'est exactement comme un ouvrier, vous savez. Les ouvriers, quand ils voient à côté d'eux des dilettantes, ils les envoient promener. Et ils disent certaines choses. Et on sait très bien ce qu'ils disent. Oui, ils disent ça le bourgeois. C'est ça qu'ils disent, que voulez-vous. C'est exactement ça. Le dilettante, c'est le bourgeois. Celui qui travaille n'est pas le bourgeois. Celui qui travaille cherche. Et l'intelligence cherche à aller jusqu'au bout. Et quand l'intelligence saisit le principe, l'intelligence sait qu'elle saisit le principe. Et alors à ce moment-là, elle s'arrête. Oui. C'est ça le propre de l'intelligence. C'est pour ça qu'il est si difficile de saisir l'induction. Parce que dans l'induction, l'intelligence veut aller jusqu'au bout pour saisir le terme. Oui, péras. Et péras, le terme de l'intelligence, c'est en même temps la fin. C'est en même temps télos. C'est en même temps ce qui donne la signification profonde à l'intelligence. Alors c'est ça qui est très très difficile à saisir, c'est que lorsque je saisis l'acte, je suis d'une certaine manière au-delà de la signification, parce que ce n'est plus per modum quiditatis, ce n'est plus par mode de quidité. Je saisis quelque chose qui achève, quelque chose d'ultime, quelque chose dans laquelle je peux me reposer. Je suis attiré par le principe, c'est ça qui est très curieux. Mon intelligence est attirée par le principe. Alors, si mon intelligence est attirée par le principe, mon intelligence, lorsqu'elle le reconnaît, s'y repose. Elle s'y arrête. Mais c'est difficile, ça. C'est le propre de la recherche, vous voyez. Et ce qui fait toujours, c'est ça. Je me souviens très bien, la question des psychanalystes, lorsqu'on parle de principe, ils vous disent toujours, est-ce que vous êtes sûr d'être le principe? Évidemment. C'est comme si vous demandez à quelqu'un, est-ce que vous êtes sûr d'être intelligent? Ben, si vous n'avez jamais fait un acte d'intelligence, vous ne savez pas ce que c'est. C'est une chose interne. Vous voyez, c'est là le point de vue propre de l'induction. C'est une chose interne. L'intelligence, quand elle saisit l'acte, sait qu'elle le saisit. Et elle peut le montrer en voyant toute la fécondité de cette saisie. Vous voyez, quand elle saisit l'acte, elle sait qu'elle le saisit. Tandis que tant qu'elle ne l'a pas saisi, elle ne le sait pas. Alors, elle reste dans le conditionnement. Alors là, il y a donc un critère interne qui est très mystérieux, qui est très difficile, et ça, c'est le propre de la vie de l'intelligence. C'est l'intelligence, vous voyez, qui dépasse le point de vue du raisonnement, le raisonnement étant dans le conditionnement. C'est l'intelligence qui va au-delà et qui saisit quelque chose qui est d'ultime. Et elle saisit ce qu'il y a d'ultime. Et elle le saisit pour lui-même, la signification. Vous voyez, alors c'est ça que je crois qu'il faut comprendre ici. Cette induction est synthétique, analogique, elle porte sur la cause finale. Alors, prétendue métaphorique, nous allons revenir là-dessus. L'exercice de l'intelligence occupe ici, plus que tout ailleurs, un rôle prépondérant qui nous ferait vite confondre la signification propre. Qui nous ferait vite confondre la signification profonde de l'être à ma manière de saisir l'être. Non. L'intelligence sait qu'elle saisit un principe au-delà de la manière dont elle le saisit, puisqu'elle est toute tendue vers la saisie de ce principe. La manière dont elle le saisit, c'est l'attitude réflexive. Tandis que là, au contraire, dans l'induction, elle est toute tournée vers la réalité qu'elle veut saisir. Elle veut saisir cette réalité dans la profondeur ou dans ce qu'elle a d'ultime. Voilà ce qu'elle veut saisir. Vous voyez, c'est ça, je crois, le caractère très important qu'il faut voir. C'est difficile, je sais bien. Parce qu'au fond, nous n'avons pas d'autre critère qu'un critère qui est intérieur à l'intelligence. Mais c'est suffisant, il n'y a pas besoin d'autres critères. L'intelligence étant souveraine, elle n'a pas besoin d'avoir un critère au dehors d'elle. Oui, c'est le prof de l'intelligence, elle est souveraine comme intelligence. Et elle est capable de dépasser le conditionnement pour saisir la détermination, alors la signification de l'acte. Mais je sais très bien que c'est au fond là où je dépasse tout le positivisme, vous voyez, déjà dans la saisie de la substance, mais beaucoup plus dans l'acte. Et c'est là où je vois la faiblesse du positivisme, qui s'arrête uniquement au niveau du conditionnement. Et que le conditionnement, c'est toujours cette attitude réflexive d'une intelligence qui ne veut pas saisir la réalité dans ce qu'elle a d'ultime et qui n'a pas cet appétit d'aller le plus loin possible. Elle veut aller le plus loin possible dans la saisie de la réalité, pour saisir dans la réalité ce qu'il y a d'ultime, l'acte. Et alors, elle se sert de tous ces échafaudages que représentent justement les expériences, elles se servent de tout cela, sont comme des paliers successifs, pour essayer d'atteindre ce qui est présent à chacune de ces expériences, mais qui est caché derrière le conditionnement. Et l'intelligence veut, au-delà de ce conditionnement, saisir le point de vue de ce qui est premier, et donc ultime. Alors, pourriez-vous opérer la distinction qui nous occupe ici entre conditionnement et détermination? La détermination, c'est l'acte. Le conditionnement, c'est la manière dont je le saisis. Ou la manière dont l'acte est donné dans ses différentes expériences. Alors, je reviens un instant sur la question de la cause finale prétendue métaphorique. Ça, nous le verrons, si vous voulez, d'une façon plus parfaite, quand on essaiera d'analyser qu'est-ce que c'est que la cause finale. Pour essayer de comprendre que représente la cause finale. Que représente la cause finale du point de vue de l'être. Si je saisis l'être en acte, ce n'est pas métaphorique. C'est la réalité qui implique cet aspect ultime d'être en acte. Et la réalité d'être en puissance est ordonnée à l'être en acte. Oui, l'être en puissance est ordonné à l'être en acte. Et l'être en acte a sa propre signification. Donc, ce qui dirait métaphorique, hein, pourquoi Don Scott dit que c'est métaphorique? Don Scott dit que c'est métaphorique parce que, pour lui, la causalité finale agit sur la cause efficiente. Et seule la cause efficiente a un résultat. Vous voyez le positivisme? Là, vous saisissez qu'à l'intérieur de Don Scott, il y a du positivisme. Parce qu'on ne regarde que le résultat. Vous ne regardez que l'efficacité. C'est très vrai. La cause finale, en elle-même, n'a qu'un résultat intérieur. Puisque c'est le bien qui attire et suscite l'amour. Or, l'amour ne peut pas se mesurer de l'extérieur. Mais l'amour est source de toutes les autres réalisations. Oui. Alors, parce que la cause finale n'a pas d'effet immédiatement constatable, on dira que c'est métaphorique. C'est par l'intermédiaire de la cause efficiente. Et ça, nous y reviendrons, mais c'est important de le saisir tout de suite. Si l'être, premièrement acte, troisième question, si l'être est premièrement acte, la puissance est une modalité seconde de l'être, et donc une modalité de non-être. Alors ça aussi, c'est intéressant à bien voir. Que la puissance implique toujours du non-être. Tout à fait d'accord. Puisque c'est justement un être imparfait. Qui dit imparfait, dit nécessairement quelque chose qui n'atteint pas la plénitude. Donc l'être en puissance implique toujours du non-être. L'être en acte est au-delà de la modalité. Tandis que l'être en puissance est toujours une modalité. Ce n'est pas un principe. C'est ce qui fonde toutes les modalités. Il n'y a pas de principe, hein, quand vous saisissez.
l'être, l'acte, distinct de l'être en puissance, l'être en acte est premier, et il est principe, et il est fin. Tandis que l'être en puissance est toujours relatif. Donc il est relatif. Il implique un ordre transcendantal vis-à-vis de l'être en acte. Donc il est toujours second. Il est relatif. Il ne se comprend qu'en fonction du premier. Et donc, puisqu'il n'est pas principe et qu'il est toujours second, il implique toujours une modalité. Si je comprends ce que c'est que d'être la modalité. La modalité, c'est justement le propre d'un être qui est relatif à sa mesure. L'acte joue le rôle de mesure à l'égard de l'être en puissance, qui est relatif à ça. Et c'est en ce sens-là qu'on dira modalité. Il faut s'entendre sur les mots, hein. Il faut tout simplement comprendre que qui dit modalité dit toujours quelque chose de second. Qui dit principe dit quelque chose de premier. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. C'est le propre du principe. Donc l'être en acte est premier, il est principe. L'être en puissance est toujours une modalité. Et c'est pour ça qu'il implique du plus et du moins. Tandis que l'être en acte n'implique pas du plus et du moins. Il est terme. Et la signification de l'être en acte a sa signification en lui-même. Je découvre cette signification en saisissant l'être en acte. Tandis qu'au contraire, l'être en puissance n'a pas de signification en lui-même. Il est relatif à. Donc, l'être en puissance implique toujours du non-être. C'est sûr. Mais il n'est pas le non-être. Alors, il faudrait voir le passage de l'être en puissance au non-être. Mais l'être en puissance n'est pas le non-être. Pourquoi ? Parce qu'il est ordonné vers l'acte. Donc, s'il est ordonné vers l'acte, il implique donc une certaine modalité d'être. Il implique la capacité d'un ordre et donc une certaine détermination. L'être en puissance a toujours une certaine détermination. Et il est ordonné vers, il est tourné vers, tandis que l'être en acte ne l'est pas. Il est ce qu'il y a d'ultime, il est la fin. L'être en puissance, donc, implique du non-être, mais n'est pas le non-être. Le non-être, c'est rien. C'est vous qui l'inventez. Le non-être, c'est purement subjectif. C'est vous qui l'inventez, le non-être. Vous l'inventez pour mettre en lumière l'être. Parce que vous n'avez pas l'intuition de l'être, alors vous le mettez en lumière par le non-être. Si j'avais l'intuition de l'être, je n'aurais pas besoin d'inventer le non-être. Ce qui est très curieux, c'est que j'éprouve le besoin d'inventer le non-être. Et si c'est vrai, si j'avais l'intuition de l'être, je n'aurais pas besoin du non-être. Je dirais, il est. Parménide, il est. Et pourtant, Parménide, même lui qui a une certaine intuition de l'être, est obligé d'inventer le non-être. Et alors, il invente le non-être pour manifester l'être. Mais c'est le côté artistique. C'est le côté artistique. Mon intelligence saisit le non-être, invente le non-être pour mettre en pleine lumière l'être en acte. Pour mettre en pleine lumière l'être. Alors j'invente le non-être. Mais ici, je veux bien dire que l'être en puissance implique du non-être. J'aime mieux dire tout ça, ça n'avance pas à grand-chose de dire ça. Ça n'avance pas à grand-chose puisque l'être en puissance n'est pas du non-être. Oui, mais c'est simplement, si vous voulez, pour préciser, je peux très bien dire, l'être en puissance n'est pas du non-être parce qu'il implique un ordre vers l'être en acte. Alors s'il implique un ordre vers l'être en acte, c'est autre chose, c'est différent. Donc vous voyez comment je peux essayer, c'est difficile, de saisir ce que représente cette induction analogique, synthétique, de l'intelligence. Qui en appétit, si elle n'est pas en appétit, s'il n'y a pas le cumos métaphysique, s'il n'y a pas cette intelligence qui est en appétit de saisir la réalité, elle ne saisit rien du tout. Alors je reste au niveau du verbiage, des mots, c'est tout. Il faut tout le temps être en présence de la réalité, et moi-même, de ma réalité, dans des états différents, et essayer de saisir au-delà de cette diversité des États ce qui les unit et en même temps ce qui leur permet d'être divers. C'est là où je saisis le métaxu, le moyen terme qui me permet cette induction. Dans des niveaux différents, je saisis l'ordre qui existe entre ce qui est parfait, ce qui est imparfait, vers ce qui est parfait. Je vois que ces états sont divers et radicalement divers, donc tout à fait autres, et cependant il y a toujours quelque chose de commun. Comme ça regarde la vie, comme ça regarde l'esprit, comme ça regarde l'être, la réalité qui est en mouvement, je dis il y a quelque chose au-delà de la vie, au-delà de l'esprit, c'est l'être, qui lui implique non pas seulement ces deux états, mais qui implique un principe. Vous voyez, au fond, l'être en acte et l'être en puissance ne peut pas être un état. C'est une projection psychologique quand je fais ça. Là, c'est un état au niveau psychologique, au niveau de la vie. Là, c'est un état au niveau de la perfection de l'esprit. Ça, ce sont des états, c'est vrai. Deux états, parfait et imparfait. Mais dès que je creuse au point de vue de l'être, je ne peux pas penser l'être en acte comme un mode et comme un état. Je ne peux le penser que comme une fin. Je peux penser l'être en puissance comme un état. Oui, ça c'est très vrai, parce que c'est un mode. Mais pas l'être en acte. Oui, c'est peut-être ça qui doit vous aider à comprendre le dépassement des états.